Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur EDFM 98 pour un nouveau rendez-vous compte. Des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, des projets solidaires partagés, des initiatives pour protéger notre environnement qui, autour de nous, enrichissent notre présent. C'est ici et maintenant.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Alors c'est avec la bande-annonce du film J'accuse de Roman Polanski, sorti sur les écrans en 2019 avec Jean Dujardin, Louis Garrel et Emmanuel Seigné, que nous ouvrons ce rendez-vous compte. Un rendez-vous compte qui sera essentiellement le tien. Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Tu nous rappelles qui tu es un peu, Alexandra?
Une élève de Bury, je suis en première et je fais partie de l'association La Ligue des Droits de l'Homme et je fais parfois des émissions avec mon professeur, Monsieur Delattre.
Voilà. Comme tu as dit, je crois que tu es attirée par le journalisme, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Et tu as déjà animé avec moi récemment un rendez-vous compte. C'était le 4 janvier. Quel était le thème?
Alors, c'était une émission de marronnier sur l'histoire du Noël et du Père Noël.
Voilà, ce qu'on appelle marronnier en termes de journalisme, hein, c'est une émission qui revient régulièrement chaque année à la même époque. Alors, rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, un thème que tu as un petit peu dévoilé, un thème en lien bien entendu avec la bande-annonce qu'on a entendue en ouverture de l'émission. C'est quoi le thème?
Alors, ça va être l'association La Ligue des Droits de l'Homme. Et on va approfondir ça avec Monsieur Vitran qui est juste à côté de moi.
Voilà, une personnalité donc qui va se présenter.
Oui, ben, je suis Jean-Claude Vitran, bonjour à tous. Je suis Jean-Claude Vitran, membre de la Ligue des Droits de l'Homme depuis longtemps et puis retraité actuellement de la professionnelle de la maladie mentale.
Alors, depuis combien de temps êtes-vous engagé dans la Ligue des Droits de l'Homme?
Écoute, Alexandra, avant de parler de la Ligue des Droits de l'Homme, je voudrais, c'est le moment justement, rendre un hommage à Robert Badinter, qui était membre de la Ligue des Droits de l'Homme. Il était membre honoraire. Il était rentré à la Ligue des Droits de l'Homme il y a excessivement longtemps, très 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 longtemps. Et pour nous, c'est la perte d'un géant, c'est la perte d'un grand humaniste, et de quelqu'un qui avait fait des droits de l'homme son flambeau et qui les portait loin et haut. Je suis rentré à la Ligue des Droits de l'Homme justement à cause ou grâce à Robert Badinter, parce que quand il a aboli la peine de mort en France, moi je m'intéressais beaucoup déjà au sujet avec Albert Camus ou avec Victor Hugo. Et quand il a aboli, ça m'a donné envie de continuer d'aller plus loin. Alors comme j'avais une vie professionnelle un peu remplie, c'était difficile. Mais aussitôt que j'ai eu du temps un peu plus, je suis rentré à la Ligue des Droits de l'Homme.
Voilà, l'abolition de la peine de mort, on s'en rappelle, c'est en 1981.
C'est exactement.
Voilà.
En décembre 1981.
T'inquiète. Qu'est-ce qui vous a incité à vous y engager ?
Ben, je viens de répondre là, en fin de compte, j'ai anticipé la question. Ce qui m'a, c'est le fait que j'ai rencontré par la radio, par la presse, ou même j'avais rencontré aussi un monsieur qui s'appelle Henri Leclerc à l'époque, qui a été président de la Ligue des Droits de l'Homme d'ailleurs, et qui a été un grand pénaliste, ami de Robert Badinter avec lequel il avait travaillé au moment de l'abolition de la peine de mort. Et c'était eux qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier. Mais j'avais toujours cette idée depuis la plus tendre enfance. Je crois que je suis un monsieur qui a besoin de justice. Moi, c'est la justice qui m'a... Les injustices me sont insupportables.
Voilà, je crois que c'est aussi le cas d'Alexandra, mais on y reviendra un petit peu plus tard.
D'accord. Très bien, tant mieux.
Alors, quand et à quelle occasion la Ligue des Droits de l'Homme a-t-elle été créée?
Tout à l'heure, on a entendu la bande-annonce de J'accuse. La Ligue des Droits de l'Homme, elle a été créée en 1898, c'est une très vieille dame maintenant, au moment de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, je pense qu'on peut revenir très rapidement dessus. Il s'agit d'un militaire français d'origine juive qui a été victime de l'antisémitisme qui perdurait à ce moment-là et qui continue à perdurer malheureusement, on le voit aujourd'hui, et qui a été mis en examen pour espionnage au profit de la Prusse. Et on s'est aperçu, bien après, 7 ou 8 ans après, que c'était faux, que tout ça n'était qu'un coup monté. Mais au moment où il a été incarcéré et qu'il a été envoyé à l'île du diable, Émile Zola a écrit ce pamphlet « J'accuse ». Et un certain nombre de nos amis ont créé ce qu'ils appellent la Ligue des droits de l'homme et du citoyen pour aider Émile Zola à ne pas être embêté par le gouvernement. Et cette petite association qui était composée à l'époque de 5 personnes, d'ailleurs ils n'y croyaient pas, et ben, c'est devenu à la Ligue des droits de l'homme avec 200 000 adhérents avant la guerre de 1939-1945, et puis maintenant un peu moins, beaucoup moins, mais quand même qui a du... Quand on parle de la Ligue des droits de l'homme, je sens que les gens ont un certain respect pour la Ligue des droits de l'homme.
Alors, Dreyfus a été condamné, dégradé de son grade de capitaine et envoyé au bagne de Cayenne. Il y serait peut-être mort sans une intervention décisive. Zola et sa lettre « J'accuse » parue dans le journal « L'Aurore » du 13 janvier 1898 sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République française, Félix Faure. On écoute sur IDFM la fin de lettre de Zola qui a donné son titre à l'article paru dans l'Aurore.
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Bois d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
Alors, à propos du président Félix Faure, une petite anecdote intéressante, c'est que l'année suivante, en 1899, le président de la République, donc Félix Faure, a connu une mort inattendue et sans doute agréable entre les bras de sa maîtresse au palais de l'Élysée, une maîtresse que Marcel Bitard, le grand-père de notre invité d'une émission du mois de janvier, Martine Hublin, a aidé à quitter discrètement l'Élysée car il était déjà agent secret et il était chargé de la sécurité personnelle de cette dame qu'il avait d'ailleurs surnommée « Fidèle ». Marcel Bitard est devenu un peu plus tard un agent secret du tsar de Russie, rendez-vous compte, et il a même été chargé à un moment d'assassiner le célèbre Rasputin. Alors je vous renvoie au podcast de l'émission sur IDFM Radio, une émission passionnante. Alors, je signale aussi qu'il existe une version cinématographique assez incroyable de l'affaire Dreyfus, qui date de la même époque, 1899. Un film réalisé par le génial Georges Méliès, qui tenait le rôle de Dreyfus. Alors, à voir absolument sur YouTube. Voilà, on écoute quelques notes de la partition musicale qui accompagnait la projection du film dans la salle, en direct, joué par un pianiste. Alors l'affaire Dreyfus a considérablement agité et divisé la société française pendant une dizaine d'années et a largement dépassé le cas du seul capitaine. Pourquoi ? Explication. C'est Boris Courret, un journaliste à BFM TV, qui nous donne quelques indications.
Alfred Dreyfus, c'est lui. Capitaine de confession juive de l'armée française, il est condamné en 1894 au bagne à perpétuité pour haute trahison. Mais sa culpabilité ne tarde pas à être remise en question. En découle un scandale politique de 12 ans qui bouleversera durablement la société française. L'officier, d'origine alsacienne, parle allemand. Et surtout, il est juif. Et la France, encore profondément marquée par la perte de l'Alsace et de la Lorraine 20 ans plus tôt, fait face à une forte montée du nationalisme et de l'antisémitisme. Le quotidien antisémite La Libre Parole dévoile l'affaire. Débute alors une violente campagne de presse contre Dreyfus. À Paris, il n'y a plus guère que son frère, Mathieu Dreyfus, pour continuer à se battre. L'opinion lui est alors largement défavorable. Jusqu'à ce que Georges Picquart, le chef du service secret militaire, ne découvre en 1896 le véritable traître, le commandant Ferdinand Esterhazy. Mais l'armée n'entend pas perdre la face. Esterhazy est acquitté et Picquart, interprété par Dujardin dans le film de Polanski, est emprisonné.
Dreyfus n'est pas de traître.
La France se divise alors entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Les répercussions sont terribles. L'affaire Dreyfus devient l'affaire. Quant à Zola, il est condamné pour diffamation et est contraint à l'exil pour échapper à la prison. Le procès de l'écrivain permet toutefois de mettre au jour les errances de l'accusation. Et la révision du procès de Dreyfus devient alors inévitable. Il faudra attendre le 12 juillet 1906 pour que la Cour de cassation annule le jugement et réhabilite définitivement Alfred Dreyfus. L'affaire aura mis en lumière l'antisémitisme d'une partie de la France et sera à l'origine de l'idée d'un État d'Israël.
Mais au moins, une des conséquences positives, c'est, rappelons-le, la fondation de la Ligue des droits de l'homme, il y a maintenant 124 ans.
Alors vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à la Ligue des droits de l'homme.
Avec Alexandra.
Et Monsieur Vitran, responsable de la section Aubonne, Forêt-Montmorency-Daumont de la Ligue des droits de l'homme. Monsieur Vitran, pouvez-vous nous décrire et nous expliquer le logo de la Ligue des droits de l'homme ?
Eh bien écoute, c'est un bonnet phrygien, un des symboles de la Révolution française, je crois. Et le symbole de la liberté. La liberté et surtout aussi de liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République, auquel il faudrait peut-être ajouter laïcité, mais enfin ça on verra plus tard. Voilà le symbole de la Ligue des droits de l'homme.
Voilà, le bonnet phrygien, c'était le bonnet que portaient les esclaves affranchis dans l'Empire romain. Un beau symbole.
Alors, autre étape décisive sur la défense des droits humains, la Déclaration universelle de 1948. De quoi s'agissait-il ?
Alors là, la Déclaration universelle de 1948, c'est un élément fondateur de notre société, qui devrait être fondateur de notre société actuelle et qui malheureusement a beaucoup, je me permettrai une expression un peu triviale, beaucoup de plomb dans l'aile. En 1948, à l'issue de la guerre de 39-45, Theodore Roosevelt avait dit qu'il savait qu'il allait disparaître parce que malheureusement il était particulièrement malade. Il avait dit à sa femme, écoute, à l'issue de la guerre, on peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut aller plus loin. Il faudrait faire donner des éléments de façon à ce que la guerre telle qu'elle s'est produite ne se reproduise plus. Madame Roosevelt a écouté son mari et a pris contact avec un monsieur qui a eu le prix Nobel de la paix en 1968, qui s'appelle René Cassin, qui était d'ailleurs ligueur aussi, et qui, avec elle et avec d'autres personnes éminentes, ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 35 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signé le 10 décembre 1948 au Trocadéro à Paris par 50 États sur l'ensemble des États de l'époque qui a été signé mais pas ratifié par tout le monde au départ, mais une cinquantaine d'États donc ont signé cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui, voilà. Malheureusement, comme je l'ai dit, a beaucoup de mal aujourd'hui à servir à quelque chose. On le voit communément actuellement.
Vous pouvez nous citer quelques articles, les premiers peut-être les plus...
Le premier article, c'est les hommes... Le premier est celui qui, à mon avis, est le plus essentiel. Et je reviendrai sur un des mots de cet article, c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit ». Et moi, je voudrais un peu insister rapidement sur un mot qu'on oublie souvent, c'est « dignité ». Et je crois qu'il faudrait, pour que notre société fonctionne de façon harmonieuse, qu'on n'oublie pas ce mot dignité. Le droit, c'est quelque chose, mais la dignité, c'est encore plus fort que le droit.
Et d'ailleurs, l'article 2 précise que ce droit à la dignité s'exerce sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue et de religion.
Exact.
Et l'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et à l'article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Et l'article 5, nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est déjà pas mal. Si déjà ces droits-là étaient respectés, le monde irait bien mieux.
Absolument. Absolument.
En 1948, la Seconde Guerre mondiale est finie depuis 3 ans. Le procès de Nuremberg a reconnu les nazis coupables de crimes contre l'humanité. L'ONU a été créée pour remplacer la Société des Nations et assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
We must learn to live together in peace.
Les pays tentent de se reconstruire et les hommes essaient de recommencer à vivre. Mais le traumatisme est immense. L'horreur reste gravée dans les mémoires et l'enfer se reflète encore dans les yeux des rescapés. Jamais la valeur humaine n'avait été méprisée à ce point. Les Nations Unies veulent s'assurer que de telles atrocités ne pourront plus jamais se reproduire. Depuis janvier 1947, une commission présidée par Eleanor Roosevelt travaille à la rédaction d'un texte qui s'inspire de la Déclaration française de 1789. Son objectif, protéger et garantir les droits de tous les individus partout dans le monde. Parmi les auteurs, originaires de 8 pays différents, le français René Cassin est l'un de ses principaux artisans. Il insiste notamment pour que le texte soit qualifié d'universel et non d'international, afin de transcender les intérêts des nations.
Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles, et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres.
Le 10 décembre 1948, elle est présentée devant les Nations Unies et adoptée par 48 voix sur 56.
Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à la Ligue des droits de l'homme avec Alexandra.
Et on écoute une chanson de 1993 d'Enrico Macias intitulée
« Au nom des droits de l'homme », Enrico Macias.
Au nom des droits de l'homme, ils ont fait le don de leur personne. Les pavés des rues comme dernier rempart de leur sang, ils ont écrit l'histoire. Au nom des droits de l'homme, les idoles un jour se déboulonnent. Libérer l'esclave de son champ de coton et les femmes de toute soumission.
La Ligue des droits de l'homme est toujours au cœur de l'actualité. Vous pouvez nous en donner 3 exemples.
Ah, vous avez déjà parlé de Robert Badinter.
Oui, mais il y en a un de toute façon, c'est la loi immigration. C'est aussi, et là, en dehors de ligueur, je suis aussi citoyen du monde. Alors vous comprenez bien que ce que je vais vous dire, pour moi, me prend à l'estomac. C'est l'histoire du droit du sol à Mayotte, sur lequel on est vent debout, parce que c'est mettre le doigt dans quelque chose qui fait partie de l'histoire de France. Vous ne le savez peut-être pas. Mais le premier droit du sol a été institué après la bataille de Marignan en 1515 par François Ier, qui a décidé qu'un certain nombre de personnes pouvaient, parce qu'ils étaient nés sur le sol français, pouvaient devenir français. 1515, bataille de Marignan. Donc, et tout ça, ça a perduré jusqu'à aujourd'hui et il n'y a aucune raison ni valable ni historique pour lequel on remet en question le droit du sol, même à Mayotte. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais je pense qu'on peut certainement trouver d'autres solutions que celle de supprimer le droit du sol à Mayotte. Ça, c'est un des éléments qui nous fait beaucoup travailler. La loi immigration, bien entendu, nous sommes contre sur un certain nombre. Ça va même au-delà de ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel. Et puis, vous l'avez dit, bien sûr, la disparition d'un géant qui est Robert Badinter.
Voilà, on pourrait aussi citer une tribune de Patrick Baudouin, l'actuel président de la Ligue des droits de l'homme, dans Mediapart. Une tribune qui y appelait au respect du droit international qui doit être imposé à Israël dans de Gaza, même si, bien sûr, les crimes terroristes du Hamas sont de toute façon condamnables à 1000%. Voilà.
Absolument, vous avez parfaitement raison. Mais enfin, le déséquilibre entre les deux est quand même assez lamentable quand on sait qu'il y a plus de 30 000 morts palestiniens. Alors moi, il n'est pas du tout question pour moi de faire une balance d'équilibre entre les deux, bien entendu. Et ce qui s'est passé le 7 octobre est dramatique. Enfin, il n'y a pas de terme même. C'est indicible ce qui s'est passé. Mais il n'empêche que les exactions d'Israël maintenant sont aussi tout à fait lamentables.
Alors, combien de sections la Ligue des droits de l'homme compte-t-elle dans toute la France ?
Ouais, écoute, a priori, comme ça, il me semble qu'il y a à peu près 400-450 sections qui sont réparties sur tout la France, les territoires et les départements d'outre-mer.
Et dans le Val-d'Oise ?
Dans le Val-d'Oise, il y a sept sections. Il y a Cergy, il y a Sarcelles, la nôtre, une à Magny-en-Vexin.
Il y a Montmagny.
Il y a Montmagny, j'ai oublié Montmagny.
Montmorency.
Voilà, exactement. Et Amiens, il y en a une à Amiens.
Et celle à laquelle vous appartenez tous les deux, je dirais. Donc,
oui.
C'est la section d'Aumont, Aubonne,
Forêt de Montmorency. C'est une section qui a été composite parce qu'il y avait deux sections, une section Aubonne, une section
à Daumont.
Et malheureusement, il y a eu la Covid. Et la Covid a fait du mal à la Ligue des droits de l'homme, comme à beaucoup d'associations, parce que les gens n'ont pas continué à venir et on avait des problèmes. Donc on a décidé de fusionner les deux sections.
Alors quelles actions votre section mène-t-elle actuellement ?
Alors cette année, on a décidé de faire un fil rouge qui serait celui sur un peu écologique, celui sur l'eau. Et on vient de passer un film le 4 février, un film qui s'appelle La Rivière, qui a été avec un débat à l'issue du film. C'est un film qui parle des rivières du sud de la France. C'est un film très très bien fait, un peu documentaire. Très très bien fait sur les problèmes écologiques et les problèmes de biodiversité. Là, on est en train de travailler pour faire une exposition sur l'eau à Aubonne à la fin après les élections européennes fin juin. Sinon, on essaye de faire travailler des établissements scolaires sur les écrits sur la fraternité. Des écrits sur la fraternité, tu vas peut-être en parler après.
Alors, pouvez-vous nous parler justement du concours de la fraternité organisé chaque année par la Ligue des droits de l'homme ?
Alors, les écrits pour la fraternité, c'est un concours qui s'adresse aux scolaires, aussi bien les écoles élémentaires, c'est-à-dire ce qu'on peut dire l'école primaire, les collèges et les lycées, même l'université de temps en temps. Des jeunes filles et des jeunes garçons écrivent des textes ou créent des poèmes, enfin, etc., sur un thème qu'on leur a désigné. Cette année, c'est justement, c'est pour ça que nous, on l'a repris, c'est le thème de l'eau. Le thème de l'eau bien commun. Parce qu'on considère, nous, que l'eau est un bien commun qui ne devrait pas être financiarisé comme il l'est actuellement dans notre pays.
Et d'ailleurs, j'avais présenté le concours de la fraternité à notre établissement scolaire Notre-Dame de Bury qui sera capable de participer.
Absolument, oui.
Et on va relayer cette initiative sur la radio créée à Bury qui s'appelle Radio Bury Rosaire RBR.
Et d'ailleurs aussi au niveau des actions qu'on mène, l'association elle aimerait créer une exposition qui est à venir normalement. Il y aura plusieurs images et plusieurs tableaux qui vont justement faire réfléchir les personnes sur ce bien commun. Et normalement à la fin de l'exposition il y aura un débat.
C'est ça.
Et peut-être que ça se trouvera à l'orangerie vers les mois de mai.
À l'orangerie d'Aubonne, oui. Après les élections européennes. Donc.
Parmi toutes les actions que vous avez menées personnellement, lesquelles vous ont le plus marqué ?
J'ai animé pendant 10 à 12 ans un groupe de travail qui s'appelle Liberté et TIC, TIC, T-I-C, Technologie de l'information et de la communication. C'est-à-dire, en fin de compte, pour se battre un peu contre la vidéosurveillance, on n'a pas réussi d'ailleurs, pour se battre pour le respect des données personnelles, on a un peu plus avancé quand même, parce qu'on a des interventions européennes qui nous donnent quand même un peu plus satisfaction. Donc j'ai été, pendant 12 ans, j'ai parcouru la France et un peu les pays étrangers pour aller porter la bonne parole par rapport à tout ça. Et puis aussi, travailler avec, parce qu'on a des permanences d'accès au droit, et ces permanences d'accès au droit sont surtout utilisées par des gens sans papier, et j'ai un très bon souvenir d'une famille pour laquelle mon épouse et moi, nous nous sommes vraiment investis, et qui aujourd'hui est tout à fait sortie du problème, des problèmes qu'elle rencontrait à l'époque, qui étaient... terrible, aucun revenu, cinq enfants, aucun revenu, une maman toute seule, enfin, etc., etc. Et aujourd'hui, la plus grande jeune fille qui a 24 ou 25 ans, eh bien, elle est docteur en langue étrangère, je ne sais plus quoi exactement, mais elle est docteur en langue et elle travaille dans une grande compagnie d'aviation américaine. Donc là, c'est pour nous, pour moi, c'est certainement ce qui me fait le plus chaud au cœur.
Quand tu es sorti de ta mère, tu n'as pas signé un contrat. Tu n'as pas dit à ton père, je serai sbire ou larbin comme toi. Être un humain sur la terre, la nature t'a donné des droits. Chercher en elle ton mystère, écrire ton destin par tes choix. Laissez-moi faire ma vie comme je l'entends. Chaque personne est unique et tous différents. Certains ont tout et d'autres n'ont rien. Liberté pour chacun, c'est un droit humain. Alors que peux-tu bien y faire pour améliorer ce fatras? Prendre un chemin solitaire ou rejoindre les autres au combat? L'argent, c'est l'ennemi pervers, lui qui fait de toi un forçat. Chevalier de la lumière qui n'a pas la clé du cadenas. 3% des terriens ont le monde en main. Pour les autres, ne rien dire et compter les points. Pourquoi certains ont tout et d'autres n'ont rien? Dignité pour chacun, c'est un droit humain. Liberté pour chacun, c'est un droit humain. Équité pour chacun, c'est un droit humain. Avancer pour chacun, c'est un droit humain. Dignité pour chacun, c'est un droit humain.
Voilà, notre émission se termine bientôt. Alexandra, tu fais toi aussi partie de la Ligue des droits de l'homme. Depuis combien de temps ?
Alors moi, je suis une nouvelle dans l'association. Ça fait à peu près, je pense...
3 mois, 4 mois ?
4 mois à peu près que je suis dedans.
Comment tu as connu la Ligue et pourquoi tu as voulu t'y engager ?
Alors j'ai connu la Ligue des droits de l'homme parce que je voulais d'abord m'engager dans une association qui justement combattait pour les droits et les inégalités. Et j'ai cherché sur le forum des associations de ma ville. Et lors des forums, justement, je suis allée... voir les représentants et je me suis inscrite.
Alors comment se traduit cet engagement dans ta vie de lycéenne, Alexandra ?
Alors c'est sûr que ça fait un plus, mais moi je trouve que c'est quand même une expérience qui reste très très enrichissante et c'est aussi une chance de pouvoir par exemple faire des interviews ou par exemple présenter le concours de la fraternité à mon lycée et j'apprends, enfin avec cette association j'apprends tout le temps des nouvelles choses, j'apprends comment on gère l'événementiel, comment les actions peuvent être menées, qu'est-ce qui est à venir dans les projets. Donc, c'est toujours très enrichissant.
D'accord. Et y compris pour ta future formation professionnelle, peut-être ?
Je pense que ça va être un plus. Oui. Et de toute façon, ça reste quelque chose qui me plaît. Donc, c'est avec plaisir que je le fais.
D'accord. Et comment réagissent tes camarades ?
Alors, l'association, je pense qu'elle peut faire un peu peur quand on l'entend, mais en général, elle suscite un intérêt, mais pas grandiose auprès de mes camarades.
Mais grâce à toi, l'action va prendre tout son envol.
C'est ça.
Voilà.
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle.
Voilà, notre émission se termine. On va remercier Monsieur
Vitran. C'est moi qui vous remercie.
Donc c'était Didier Delattre.
Et Alexandra.
Sur IDFM.
À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous compte.
Même endroit, même heure.
Des projets solidaires et partagés.
Des créations originales qui autour de nous enrichissent notre présent.
Des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes.
Ce sera ici et maintenant.
Avec Rendez-vous compte.